Radio Okapi.
La désinformation genrée et le cyberharcèlement prennent de plus en plus d'ampleur en République démocratique du Congo. Les jeunes, très actifs sur les plateformes numériques, sont à la fois les plus exposés à ces dérives, mais aussi les mieux placés pour y faire face. C'est dans ce contexte qu'un atelier de concertation et d'engagement des jeunes activistes, influenceurs et créateurs de contenus s'est tenu les mardis 27 et mercredi 28 janvier 2026 à Kinshasa. Cette activité a été organisée par la MONUSCO en partenariat avec le ministère de l'économie numérique et plusieurs ONG partenaires. Objectif principal, outiller les jeunes pour lutter efficacement contre la désinformation genrée et le cyberharcèlement à travers des stratégies de communication responsables et adaptées aux réseaux sociaux. Plusieurs thématiques ont été développées, notamment l'impact du cyberharcèlement sur les efforts de paix en RDC, l'approche onusienne face à la désinformation genrée et la nécessité de vulgariser la loi et le code du numérique. C'est quoi la désinformation genrée? Comment se manifeste-t-elle sur Facebook, TikTok, X ou WhatsApp? Quels sont ses impacts sur les jeunes, surtout les filles? Autant de questions que nous allons développer dans ce numéro des 100% jeunes réalisé par Élise Kavira. La mise en onde est assurée par Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa à la présentation de ces magazines grâce à Mzati sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bonjour à tous et bienvenue. Une trentaine de jeunes activistes des droits humains, influenceurs, blogueurs et créateurs de contenus ont échangé pendant 2 jours à Kinshasa autour de la lutte contre la désinformation genrée et le cyberharcèlement. Les participants ont été appelés à une prise de conscience collective et à un engagement actif face à ces pratiques qui fragilisent la cohésion sociale. Cette rencontre se veut avant tout un espace d'expression et d'engagement des jeunes appelés à devenir des véritables acteurs des changements dans l'espace numérique congolais. La conférence a livré un message fort. Les réseaux sociaux doivent servir à sensibiliser et à rassembler et non à propager la violence. Dans cette émission 100% jeunes, nous revenons sur les temps forts de ces échanges, les attentes des participants et les outils juridiques mis à leur disposition pour lutter efficacement contre la désinformation genrée et le cyberharcèlement. On écoute tout d'abord Ghislain Kabea Motomoke du ministère de l'économie numérique qui revient sur quelques dispositions clés du code du numérique. Il est au micro d'Élise Kavira.
Notre objectif aujourd'hui et de vous sensibiliser sur les codes du numérique. Nous avons les codes du numérique à partir de ces articles 356 qui prévoient des responsabilités de tout un chacun. Vous diffusez des contenus tribalistes, racistes, xénophobes, vous serez puni. Et ceci peut aller de 1 mois à 2 ans de prison, de 500 000 francs à 10 millions de francs congolais. Nous passons à l'article 359 qui condamne les harcèlements. L'article 360, quant à lui, c'est pour des rumeurs, des fausses informations. Lorsque vous relayez cela, vous engagez votre responsabilité pénale. 1 à 6 mois, mais aussi, vous pouvez dépenser 500 000 à 1 million. Ces peines peuvent être encourues, les deux à la fois, ou l'une ou l'autre. Ça dépend de l'appréciation des juges.
Développant les sujets sur la désinformation genrée, Elsie Lotendo, coordonnatrice du mouvement féministe Bisobasi Telema, affirme que les jeunes doivent utiliser les réseaux sociaux de manière responsable en s'appropriant le code du numérique pour combattre la désinformation genrée et le cyberharcèlement dans le respect de la loi et de la dignité humaine. Mais qu'est-ce qu'on appelle désinformation genrée? Elle répond dans cet entretien avec Élise Kavira.
La désinformation genrée, c'est le fait de publier des informations fausses, des informations manipulées, montées de toutes pièces. Maintenant, quand ces informations manipulées, ces vidéos manipulées qui sont orientées une attaque vers la femme, des informations qui sont manipulées, montées de toutes pièces pour s'attaquer à une femme, tout spécialement, c'est ce que nous appelons des informations genrées. Mais cela n'exclut pas les hommes. Ça peut aussi arriver à ce que ces informations manipulées puissent être des attaques contre un homme aussi. Mais la désinformation genrée, c'est ce qui touche beaucoup plus au fait les femmes.
Donc si je comprends bien, dans la désinformation genrée,
l'homme n'est pas concerné.
Les hommes aussi sont victimes de la désinformation genrée. Mais quand on fait une analyse par rapport à des informations des cas spécifiques, ce sont plus les femmes qui sont victimes de la désinformation genrée. Et c'est fait parfois, souvent exprès en fait. Ce sont des stratégies mises en place. La désinformation genrée, c'est comme on dit, vraiment une arme en fait qui est orientée que vers les femmes souvent, pour les déstabiliser, les faire taire, les exclure en fait des espaces publics. Donc c'est vraiment fait exprès en fait, pour s'attaquer aux femmes.
Et comment ça se présente, on va dire d'abord sur les réseaux sociaux? Nous voyons aujourd'hui, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Est-ce que vous savez déjà comment reconnaître une information qu'on peut qualifier de fausse sur les réseaux sociaux pour savoir que cette personne est en train vraiment de propager des fausses informations? Est-ce qu'il y a des indices?
Quand vous n'êtes pas, par exemple, sûr d'une information, d'ailleurs, première chose, quelqu'un qui publie une information, il faut chercher des vérifications, en fait, connaître la source de cette information pour avoir une vraie information pour confirmer si cette publication est vraie ou elle est fausse, en fait, premièrement. Parce que quand on essaie de relayer les informations sans vérifier, c'est là où on continue à propager, c'est de cette manière qu'on continue à propager de la désinformation. Vous voyez, c'est pour ça que beaucoup de personnes, ce que je l'ai dit tout à l'heure, se retrouvent dans la mésinformation. Parce qu'ils se retrouvent là où les informations qu'ils reçoivent, ils relayent ça sans pour autant vérifier l'information si elle est vraie ou elle est fausse, vous voyez. Et beaucoup de femmes aussi en sont victimes dans le sens où il y a par exemple des sites de vérification des faits. Il y a beaucoup des applications, pour exemple, pour vérifier si une vidéo qui vient de publier, si cette vidéo est vraie ou fausse, une image publiée, balancée, cette image est vraie ou bien elle est montée. Donc il y a des outils de vérification des faits pour savoir si cette image, cette vidéo est vraie ou fausse, cette information, cet audio, parce qu'on en a vu des montages des audios, on prend la voix, on imite la voix de quelqu'un, on le met, on monte, tout ça, faut le faire passer pour telle personne, vous voyez. Donc tout ça, il y a la possibilité de vérifier toutes ces informations. C'est pour ça que c'est important pour nous de toujours vérifier les faits, vérifier toujours avant de balancer, avant de partager à ton proche, tout ça. Parce que tant qu'on n'est pas sûr, ça veut dire qu'on se met à relayer de la mésinformation.
Dans la société, il y en a plusieurs qui parlent plutôt de la victimisation. C'est-à-dire, ce que nous considérons, nous, femmes, parfois comme attaque portée sur notre personne et même rendue virale sur les réseaux qui accentue certains préjugés qui existent déjà sur la femme. Certains estiment que c'est pas grave, il n'y a pas lieu de se plaindre. Mais vous, vous venez de dire ici que cette désinformation a parfois pour but de vraiment faire taire la femme, l'emmener à se replier sur elle-même. Comment accompagner cette femme-là qui, suite à la désinformation, se sent obligée de la fermer carrément parce qu'elle a peur que ça ne continue?
Ce qu'il faut faire, il faut soutenir cette femme, il faut soutenir cette victime, l'aider à collecter des preuves pour prouver que ce sont des informations fausses sur elle. L'apporter notre soutien, en fait, moral, psychologique, tout ça. S'il faut aller l'accompagner dans la procédure de dénonciation, il faut le faire, on le fait ensemble avec elle. Donc c'est important d'être de côté de cette personne victime. S'il faut signaler le compte, la page où cette désinformation a été faite, il faut signaler. C'est comme ça qu'on peut ensemble réduire ce genre d'attaques contre les femmes. C'est important.
Et que pensez-vous de ceux qui pensent que la femme se cache derrière, on appelle ça même des slogans inventés par la femme pour masquer ses incompétences? Une fois qu'on lui dit qu'elle n'a pas réussi dans tel ou tel autre domaine, qu'elle n'a pas bien fait, elle se dit, non, non, vous m'attaquez parce que je suis une femme. Qu'est-ce que vous pensez de cela?
Je pense que les femmes, montrer ses faiblesses, montrer là où on est échoué, ne fait pas de nous une faiblesse, en fait. Ça doit devenir nos forces, en fait. Parce que quand on se connaît bien, on connaît ses faiblesses, on l'utilise pour que ça devienne notre force, en fait. Vous voyez, c'est important à ces femmes-là de se reconnaître, de connaître ses faiblesses pour essayer de s'améliorer, pour que ces faiblesses deviennent de force, en fait, de travailler dessus sur cette faiblesse-là. Mais d'un autre côté, on dénonce aussi ces genres de comportements, certains qui s'attaquent aux femmes réellement, ils ne voient pas leurs compétences. Ils voient seulement parce que c'est une femme, on s'attaque à elle parce que c'est une femme. Et ils se disent que les femmes sont émotionnelles, qu'on va s'attaquer à elles, et puis du coup, elle va tout abandonner. Il ne faut pas oublier que ce sont des stratégies souvent mises en place pour vraiment exclure les femmes des espaces publics et les empêcher à aller de l'avant.
De son côté, Habibou Bangré de la division des affaires politiques de la MONUSCO ajoute que la lutte contre la désinformation genrée et le cyberharcèlement passe par l'engagement actif des jeunes, leur comportement responsable sur les réseaux sociaux et une collaboration étroite entre institutions, sociétés civiles et acteurs du numérique. On l'écoute.
Lors du dernier processus électoral, on a observé une tendance assez inédite des violences numériques perpétrées dans le cadre de l'intolérance politique. S'il est difficile de chiffrer les abus, des images ont marqué les esprits, notamment celles de femmes dénudées, frappées, filmées par des groupes essentiellement composés d'hommes, des violences infligées en raison d'une appartenance politique réelle ou supposée. L'intimité de ces femmes est devenue virale sur les réseaux sociaux, certains d'entre vous l'ont évoqué aujourd'hui, et c'est devenu le fait, en fait, d'individus nourrissant l'espoir d'intimider et d'humilier le camp de l'adversaire politique, tandis que d'autres cherchaient à dénoncer les abus sans toutefois savoir comment préserver la dignité des victimes. Ça a été également évoqué un peu plus tôt. Les conséquences sont lourdes de ce genre d'attaque. Outre le traumatisme, de telles attaques peuvent pousser des candidates à abandonner une candidature, voire se retirer totalement du monde politique, et ce, dans la foulée, ça affectera la participation des femmes dans les processus électoraux et politiques. D'autres dérives ont été constatées, notamment dans le contexte électoral, mais aussi du conflit qui affecte l'Est de la RDC, où certains individus ont remis en cause la nationalité de certains candidats à la présidentielle ou ont mis en exergue la nationalité étrangère de leur épouse pour tenter de semer le doute sur la loyauté à la RDC et ainsi d'influencer le vote. Toujours dans le cadre du conflit dans l'Est, la stigmatisation de certaines communautés, qu'elles soient perçues ou réelles, peut provoquer des replis identitaires sur des bases ethnocentrées, voire linguistiques, et générer ou renforcer les tendances séparatistes ou indépendantistes. En somme, ces attitudes peuvent porter un coup dur à la cohésion nationale et au vivre ensemble. Alors, je vais évoquer quelques opportunités et bonnes pratiques, dont certaines ont déjà été évoquées. Donc, la première chose, rappelez-vous d'utiliser les nouvelles technologies avec prudence. Il faut garder à l'esprit que votre vie privée peut devenir publique, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans votre téléphone, qui peut disparaître, être volé ou autre, piraté ou autre, assurez-vous que ce qu'il y a dans votre téléphone, vous en assumez le contenu. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de photos, de vidéos qui puissent vous porter du tort demain, surtout quand vous êtes dans un milieu politique où ce genre de contenu peut être utilisé contre vous. Plus globalement, l'impunité nourrit la récidive. C'est important de garder ça à l'esprit. Dans ce contexte, la justice devrait s'autosaisir pour chaque cas. À ce titre, la proposition de loi contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie pourrait offrir une opportunité de prévenir et de sanctionner les abus. Cette proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale fin 2024, et il reste encore à la mettre à l'agenda. Les institutions d'appui à la démocratie peuvent également jouer un rôle de prévention important, comme la CENI, donc la Commission électorale nationale indépendante, en suggérant par exemple une disposition considérant l'agression digitale dans la loi électorale et dans un code de bonne conduite que signeraient les acteurs politiques. Toujours concernant les institutions d'appui à la démocratie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, et la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, pourraient, après un renforcement de capacités, s'ériger aussi en lanceur d'alerte à vos côtés, donc pour les influenceurs qui sont présents dans la salle. En outre, il est important d'assainir le débat politique et institutionnel et que les acteurs politiques condamnent publiquement et systématiquement les cas de cyberharcèlement dont ils seraient victimes eux-mêmes, mais aussi ceux qui émaneraient de leur propre rang. Je signale ça parce qu'on a vu à plusieurs reprises les personnes condamnées des attitudes abusives dont ils ont été victimes eux, mais sans condamner leurs propres membres qui insultent, harcèlent des personnes en ligne. Les influenceurs qui sont présents ici, peut-être quelques suggestions, mettre en place ou renforcer des systèmes de signalement individuels ou groupés qui cibleraient des contenus à caractère diffamatoire, insultant ou infractionnel. Je comprends que c'est déjà le cas du côté de Balobaki Tchèque et d'autres structures. Pour ceux qui sont suffisamment outillés, partager des liens pédagogiques et des stratégies qui permettent de dénoncer tout en préservant la dignité des victimes, ça c'est très important, sinon c'est une autre violence qu'on inflige encore à la victime. Et vous pouvez aussi vulgariser les articles du Code du numérique combattant le cyberharcèlement, c'est les articles 358 à 360 qui punissent le harcèlement en ligne, le comportement haineux et tribal et la désinformation. Ou encore vous approprier le Code de déontologie du journaliste congolais qui bannit l'injure, la diffamation, la déformation des faits, le mensonge, l'incitation à la haine, qu'elle soit religieuse, ethnique, tribale, régionale ou raciale.
Une autre intervenante, c'est Ravaneli Tumba, journaliste fact-checker au sein du média communautaire Balobaki Tchèque. Elle nous cite quelques moyens de vérification des informations.
Le fact-checking, déjà, d'abord, c'est un genre journalistique, on va dire. Fact-checking, c'est en anglais, comme vous l'avez dit. En français, on le traduit par vérification des faits. Donc, nous vérifions des informations qui circulent en ligne, si elles sont vraies ou si elles sont fausses, afin d'éclairer le public.
Et comment vous vous y prenez?
Alors, c'est tellement vaste que nous pouvons vérifier des citations, des photos ou des vidéos qui sont sorties de leur contexte. Une photo qui peut-être a été prise à Kinshasa, à la gare gare centrale, mais quelqu'un qui détourne le contexte, disant par exemple que c'est une photo qui vient du Nord Kiev. Alors nous, on prend justement cette photo-là à l'aide des outils ou encore des techniques de fact-checking, par exemple avec Google Lens. Je cite Google Lens directement parce que c'est un peu l'outil qu'on a apporté. Donc nous allons sur le moteur de recherche Google. À l'extrémité droite, vous allez voir l'icône d'un appareil photo. Et c'est là que nous cliquons pour téléverser, donc télécharger la vidéo qui se trouve dans notre galerie afin de mettre sur Google Lens. Et Google Lens, lui, il nous propose des résultats. On trouve là des personnes qui ont publié, les premières personnes qui ont publié l'information. On nous propose justement le contexte dans lequel cette image-là a été publiée. Donc c'est à nous maintenant de continuer de faire la recherche jusqu'à connaître la bonne information. Pour les citations et tout, on utilise la méthode des mots-clés sur Google. Je donne un exemple. Quand c'est une citation qui a été dite, par exemple, par le président de la République, on sait tous que le président de la République, lorsqu'il prend une part, les médias vont en parler. Donc, il suffit de taper le mot-clé de toute la citation et si réellement le président l'a dit, vous allez le retrouver sur les médias crédibles et sérieux. Donc, ce sont là les techniques qui nous permettent de vérifier. Mais là, vraiment des techniques, je le dis, pour des personnes lambda qui sont très faciles à utiliser.
Et avec l'expansion des réseaux sociaux, nous voyons tous les jours des images truquées, des montages circulés sur même des personnes qui ne sont peut-être pas connues ou influentes. Dans ce cas-là, est-ce que vous avez, on va dire, des outils que vous pourrez proposer à la population pour prouver, ça peut être mon image, j'ai une image qui a été publiée, j'ai besoin de prouver que ce n'est pas moi, qu'il y a quelque chose qui a été truqué. Est-ce que vous avez des outils, des vérifications pour justement aider la population? Parce que c'est vrai, vous parlez de Google Lens, c'est sûr, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Est-ce qu'il y a des applications où tu prends la photo directement, ça te montre que ça c'est vrai, ça c'est faux, des outils que vous pouvez proposer?
Alors nous avons des outils comme pour des images qui sont truquées. Nous avons par exemple Hive Moderation qui nous permet de détecter que cette image a été truquée ou a été générée par intelligence artificielle. Mais nous avons aussi des outils qui permettent justement de remonter jusqu'à la première personne qui a publié l'image dans Tinai. C'est aussi un outil que nous utilisons pour justement connaître, comme je l'ai dit au début, le contexte ou encore de remonter à la vraie image de l'information. C'est vrai qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, nous ne sommes pas à l'abri, mais il faudrait que nous-mêmes aussi on s'outille. Ça reste l'intelligence artificielle. Même les outils que nous utilisons, ça reste de l'intelligence artificielle. Mais nous avons besoin de plus de la sagesse humaine ou de la perception de l'individu lui-même qui est face à une fausse information ou une information truquée. Donc même si Hive Moderation te dit oui, c'est une image qui est générée par intelligence artificielle, mais toi-même tu dois avoir des arguments aussi qui peuvent quand même mettre le tic à l'oreille pour que la personne sache que réellement c'est une image détectée par intelligence artificielle. Par exemple, lorsque c'est une image qui est détectée par intelligence artificielle, avant même d'amener vers les outils, vous allez remarquer que les gestes, par exemple, ne sont pas fluides, le son ou bien l'audio a l'air un peu automatisé, un peu comme si c'était un robot qui parlait, ça bug quelque part, donc il y a toujours des incohérences, voilà, visuelles qu'il y a dans ces images qui peuvent te pousser justement à aller faire la recherche sur Hive Moderation, comme je l'ai dit. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont payants, mais Hive Moderation est plus facile. Ça nous permet d'aller directement mode gratuit, quoi.
Et une fois que l'image a été détectée, on sait maintenant que c'est du faux puisque les outils nous ont aidés. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Est-ce que vous poursuivez les personnes qui ont publié? Parce que là, il y a, avec cette activité, avec les blogueurs et les créateurs de contenu qui se plaignent tout le temps d'essayer de participer à la lutte contre la désinformation, parfois répostant d'autres images, mais avec des messages de mise en garde, mais qui se voient bloqués, qui voient leur publication être bloquée. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le cas où l'image a déjà été détectée?
C'est tout un processus. Nous, par exemple, à Baloba Kitchek, lorsqu'on détecte une fausse information, nous contactons la personne qui a publié la fausse information pour demander ses sources, pour demander où est-ce que tu as eu cette information, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on pose des questions. Mais si si la personne ne répond pas ou si la personne ne donne pas des sources qui sont sûres et qu'on se rend compte que justement cette information-là devient virale, on traite justement l'information et on les publie dans notre site, on les publie sur nos réseaux sociaux. Mais la question, je comprends, lorsque les gens se plaignent que leurs publications sont bloquées ou supprimées, ou même deux fois leur page, il arrive aussi que les initiatives de fact-checking sont en collaboration avec Meta, avec Facebook, qui justement signalent une photo ou une vidéo qui devient virale pour dire à Meta, mais écoute, cette information est virale, elle est fausse, mais on se rend compte que c'est publié, que les gens continuent de relayer et tout, et c'est Meta qui s'assure justement de bloquer tous les contenus, toutes les publications qui contiennent cette information-là. Et il n'existe pas que nous, les initiatives de fact-checking comme Baloba Kitchek, mais un individu lambda peut aussi signaler une information. Vous voyez, lorsque vous partez sur le paramètre de Facebook, on vous permet de signaler une information lorsqu'il y a de caractère sexuel, lorsque vous voyez qu'on harcèle quelqu'un et tout. Voilà, donc tout le monde a cette possibilité de signaler une information quand ça touche à la dignité même d'un humain. Mais c'est que je demanderais justement à ces gens qui, parce que ça arrive que la personne publie l'image, pas pour propager la fausse nouvelle, mais pour signaler que l'information est fausse, ben, le mieux peut-être serait de ne pas encore reprendre la même photo qui fait le tour sur les réseaux, mais quand même faire un texte ou prendre une photo d'illustration pour raconter que la photo que vous voyez circuler est une fausse information.
Il peut arriver que la personne ne sache plus quoi faire. Elle se rappelle qu'il y a quand même une organisation qui avait parlé de ça, de la lutte contre la désinformation et qui fait même, on va dire, la vérification. Est-ce qu'il y a un lien? Comment cette personne va vous trouver? Est-ce que vous aidez justement des personnes qui ne savent pas comment s'y faire à pouvoir se rassurer de la véracité, de l'authenticité de certaines informations?
Alors, Baloba Kitchek, je vais bien l'épeler pour que tout le monde note. Donc, Baloba qui, c'est en lingala. BALOBAKI Check, CHECK. Sur toutes les plateformes, sur nos réseaux sociaux, donc c'est Baloba qui check. Vous allez nous retrouver sur Facebook, sur X, sur Instagram et même sur TikTok. Et nous avons aussi un numéro WhatsApp. C'est justement ces numéros-là, au-delà de notre adresse mail qui est balobakicheck@gmail.com. C'est à travers ce numéro-là que des gens nous écrivent pour nous demander de checker une information pour eux. Donc ça nous arrive comme ça de recevoir des messages qui viennent de toute la République, même d'ailleurs, pour vérifier une information. Alors c'est le 0 085 91 67 887, donc plus 243 85 91 67 887. Et c'est même à travers ce même numéro que nous envoyons nos newsletters chaque lundi. Donc ce sont là les informations que nous avons traitées au courant de la semaine et que nous regroupons, que nous envoyons chaque lundi à nos lecteurs pour que nous soyons toujours plus proches d'eux.
Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que vous suivez le magazine 100% Jeunes sur Radio Capi, qui se focalise aujourd'hui sur un atelier organisé à Kinshasa sur la désinformation genrée et le cyberharcèlement. Nous vous proposons à présent les réactions des participants à ces échanges. Trésor Mouteba, activiste au sein du mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha, explique la motivation de sa présence à cet atelier ainsi que la valeur ajoutée. Il s'entretient avec Élise Gavira.
La plus grande motivation, ce qui m'a beaucoup plus aidé à venir dans cette conférence, c'est le thème d'abord. En tant qu'activiste, j'étais très intéressé par le thème.
En quelques mots, vous pouvez dire que vous avez retenu quoi?
Premièrement, je suis d'abord erré et pour englobé, j'ai retenu en tant qu'activiste, en tant qu'influenceur ou créateur de contenu. Ce qu'il faut faire dans la vie, d'abord, c'est avoir la connaissance sur la loi. Ça, c'est quelque chose, peut-être qu'on faisait sans le savoir, mais ça m'a beaucoup donné l'impression que ce que nous faisons parfois, on va au-delà. Mais la maîtrise ou la connaissance des tests légaux nous aide quand même à rester sur le chemin.
Est-ce que vous qui êtes activiste, nous savons que les membres de Lucha sont très coriaces aussi sur les les réseaux. Est-ce que vous avez une fois déjà été victime du cyberharcèlement ou vous avez été témoin du cyberharcèlement? Quelqu'un que vous connaissez a déjà été victime de cela?
Je pense que c'est bien tombé. Nous, en tant qu'activistes, c'est ce qu'on vit du jour au jour. Personnellement, j'ai été plusieurs fois harcelé sur les réseaux sociaux au point où, à un moment, j'ai eu même à quitter le pays parce que j'avais eu des menaces terribles sur mes réseaux sociaux suite à mes déclarations ou peut-être à ma position par rapport aux situations du pays ou à ce que le gouvernement faisait quand vous donnez votre point de vue et que ce point de vue ne rencontre pas ce que le pouvoir en place fait. Vous êtes harcelé par le membre, soit du parti politique ou le politicien. Et du coup, je pense que c'était une occasion pour nous de nous exprimer face à ces autorités, leur dire clairement qu'on peut être opposé à une idée, à une position du gouvernement. Cela ne fait pas de nous leurs ennemis. Du point de vue que la Constitution nous donne cette possibilité de nous exprimer librement, la liberté d'expression, il peut y avoir quelque chose. Et lorsque moi, en tant que citoyen, je trouve que ça ne cadre pas avec peut-être mes valeurs ou mes principes, je dois m'exprimer. Mais du coup, ça tombe très mal dès que les gens vous lisent ou trouvent que ce que vous êtes en train de faire va à l'encontre de leur position. Vous êtes harcelé, vous êtes attaqué au point où ça quitte même les réseaux sociaux, ça va peut-être physiquement. On a subi ça plusieurs fois. Et le pire est que ça continue à être d'actualité ou à être fait jusqu'à maintenant.
Et je pense qu'à travers cette conférence, puisque nous connaissons maintenant des plateformes qui peuvent nous aider à retracer les harceleurs sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir agir sans peur parce que vous connaissez maintenant vos limites et vous connaissez comment imposer ces limites-là aux autres qui vous harcèlent.
Je pense que c'était quand même bien parce qu'aujourd'hui, on a eu quand même à découvrir quelques plateformes. Ça peut nous aider. Des formations pareilles, ça nous remet quand même peut-être la conscience pour dire, avant peut-être de publier quelque chose, il faut passer par les checking, voir si une information elle est vraie ou peut-être c'est une fake news. Il y a des sites où tu peux te référer, peut-être quand il y a des photos, des vidéos générées par l'IA ou peut-être des publications qui ne cadrent pas avec la vérité. On a maintenant l'obligation ou peut-être cette capacité d'aller vérifier. Et aussi, sans oublier que même à ces autorités, on a eu à voir la loi aujourd'hui, il y a des choses qu'on comprend quand même qu'il y a des lois qui ont été taillées sur mesure. Où vous avez quelque chose, lorsque c'est fait par un membre du gouvernement, vous trouvez que la justice ou les autorités ne s'impliquent pas totalement pour interpeller ces gens. Mais lorsque cela est fait par quelqu'un de la société civile ou de l'opposition, vous voyez quand même que toutes les batteries sont mises en marche pour essayer de faire taire ces gens. Et nous pensons que la loi doit être là pour essayer d'équilibrer la vie dans la société. Mais la loi ne doit pas venir pour nous faire taire.
Dans la foulée, Prida Diasilwa, activiste et créatrice de contenu, parle de l'importance de cette activité dans la communauté, particulièrement chez les jeunes.
Ce qu'on peut retenir de ce que nous avons appris, c'est que le cyberharcèlement ou la violence numérique est réelle et elle touche pas seulement moralement mais aussi physiquement et qu'il y a des mesures, la loi, les codes numériques qui sont en vigueur, mais seulement ces lois ne sont pas vraiment divulguées. Plusieurs personnes ne les connaissent pas. Donc l'objectif, c'est de les propager afin que chacun puisse être au courant de cela et qu'il puisse tirer des leçons par rapport aux actes passés et prendre des précautions prochainement avant de publier sur Internet.
Il arrive parfois qu'on assiste à, on va dire, des programmes, mais on se rend compte que il y a rien de concret. Soit il y a rien de nouveau, soit il y a du nouveau, mais c'est pas concret. Vous, quel est votre sentiment à l'égard de tout ce qui se passe ici, de tout ce que nous apprenons ici?
Avant de venir, j'étais aussi dubitative. Je me disais, bon, nous sommes au Congo, il y a des choses et tout, bon, ça se dit et ça se fait pas. Mais en venant, en assistant à cette conférence, je me rends compte que la volonté est là, puisque nous avons la PNC, nous avons l'ONU, nous avons tellement des autorités qui sont présents dans le souci de concrétiser la loi et tout ça là. Donc je pense que après ces moments, il y aura vraiment un changement.
Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des sanctions qui s'appliquent et même des peines d'emprisonnement pour ce genre de délits?
J'étais au courant du code du numérique, mais en ce qui concerne les sanctions, je me disais que voilà, malgré le code du numérique, nous sommes au Congo, il n'y a pas vraiment des sanctions vu que toujours la loi est là, mais la pratique a toujours été un peu difficile. Donc je ne savais pas qu'il y avait vraiment des sanctions ou des peines de prison par rapport au harcèlement numérique.
Okapi, fréquence de la paix.
Notre reporter Élise Kavira a tendu son micro à plusieurs autres jeunes participants à ces assises. On écoute quelques-uns.
Je suis Madame Ornella Mumbela, je suis journaliste centrée sur les questions humanitaires. Je travaille aussi sur le développement communautaire. Également, je suis coordonnatrice de la structure Équateur Magazine. Ce que je fais ici, c'est par rapport à la thématique, c'est très intéressant. On parle de la désinformation, du discours de haine. Un message que je vais lancer, juste un message de sensibilisation à toutes les femmes congolaises. Avant de publier une information, il faut d'abord vérifier la source de cette information. Voilà, merci.
Moi, c'est Yves Siala, je suis spécialiste de marketing digital. Je suis également blogueur. Mes contenus sont beaucoup plus centrés sur la motivation, sur la vie sexuelle des adolescents, mais également sur tout ce qui a trait avec la société et tout ce qui est jeune en fait. Étant créateur de contenu, j'ai plus de 66 000 abonnés sur ma page et il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, qui consomment mes publications et je suis dans l'obligation d'être suffisamment informé pour savoir comment je dois parler à la jeunesse, comment je dois communiquer, qu'est-ce que je dois pas dire à la jeunesse, quel mot, quelle phrase, quel thème que je ne peux pas aborder. Et même s'il faut aborder un sujet sensible, comment l'aborder pour ne pas blesser les uns ou les autres. Donc à ce point, je pense que j'ai vraiment une lourde responsabilité d'être moi-même étant leader, d'être suffisamment informé pour bien communiquer aux jeunes qui me suivent tous les jours. C'est sous cette casquette que je suis là. Mais aussi dans le marketing digital, ce n'est pas seulement la vente. Dans le marketing digital, nous travaillons aussi la notoriété des personnalités, la notoriété des entreprises. Nous faisons vendre, nous faisons la campagne. Tout ça, ça a aussi une très grande importance par rapport à ce que nous voyons aussi sur les réseaux sociaux. Par exemple, les fact-checking aussi. C'est aussi très important pour notre métier de savoir sur quoi on communique, comment on communique, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Je pense que tout ça, ça englobe mon métier et ça a été vraiment important.
Et aujourd'hui, dans cette génération où nous courons après les tapotages, les likes, les vues, vous, créateur de contenu, votre désir premier, c'est d'abord de vous agrandir ou alors d'agrandir votre renommée. Est-ce que aujourd'hui, vous avez quand même appris quelque chose qui peut-être ne vous aide pas à courir rapidement vers la notoriété, mais qui pourrait vous aider à produire des contenus, on va dire, plus positifs. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, vous avez retenu quelque chose dans ce sens-là?
Et surtout sur les femmes, moi, si vous suivez ma page, vous verrez qu'au-delà des motivations, au-delà des marketing digital, je parle aussi beaucoup sur la sexualité des adolescents, je parle également des relations de couple. Je touche beaucoup les femmes et très souvent, j'encourage les femmes à devenir indépendantes, de chercher elles-mêmes son argent. Et il arrive parfois aussi que je blesse les femmes dans mes messages, en fait. Alors, je trouve que cet atelier a été utile. Ça me permet de voir comment je dois communiquer quand je parle aux femmes, quels sont les mots que je ne dois pas utiliser pour faire passer mon message sans pour autant blesser, en fait. Donc, je crois que cette formation a été utile pour moi.
Moi, c'est Marie-Joëlle Minella Isimbo. Je suis activiste défenseuse des droits humains. J'œuvre au sein du mouvement citoyen ECHA. Je suis en même temps entrepreneur et journaliste et chroniqueuse. Je parle plus de la géopolitique et tout ça. Cette question m'intéresse et je me suis représentée parce que en RDC actuellement, la population s'accroît et la population jeune est à plus de 60%. Alors, les métiers du numérique peuvent être créés, mais aussi nous devons placer des bases pour que nous ayons vraiment une communauté numérique sécurisée qui peuvent permettre aux jeunes qui sont de plus en plus présents, très demandeurs de consommateurs d'Internet et tous les outils technologiques et tout ça, à utiliser cela pour le développement ou pour leur bien-être.
Moi, c'est Monsieur Ben Chikangu. Je suis activiste aussi. Je suis également créateur de contenu. Je suis venu ici parce que le sujet m'intéresse beaucoup. La thématique qui était la mésinformation, malinformation, désinformation et surtout le cyberharcèlement. Et souvent, mes contenus sont trop tranchants sur les réseaux sociaux et à des fois, les gens nous jugent peut-être à tort alors que je me présente souvent comme un conservateur. Conservateur dans la mesure où je pense que il y a beaucoup d'abus que peut-être les femmes se laissent emporter sur les réseaux sociaux. Et quand on tente peut-être d'en parler, on veut nous caricaturer comme étant des misogynes et autres. Bon, mais finalement, c'était vraiment très important pour moi de participer et de comprendre tant soit peu. Je pense que demain, je peux encore enrichir un peu plus.
Vous venez de le dire, vous êtes conservateur, pas misogyne, comme on vous le colle souvent. Mais c'est quoi la limite entre conservateur et misogyne?
En fait, la limite se trouve dans le simple fait que être conservateur n'a rien à voir avec la misogynie. La misogynie, peut-être, c'est un argument de taille que certaines femmes qui se sentent sentent directement touchés, peut-être avancent pour nous affaiblir, pour ne pas encore avoir le courage de parler de certains sujets. Alors, on est conservateur parce qu'on pense que la femme est sacrée, la femme est fragile, on doit la protéger, on doit. Il y a d'autres organisations, d'autres structures qui font déjà la promotion de la femme, comment on doit protéger la femme, mais nous autres aussi, nous avons aussi la responsabilité d'alerter, attention, la femme, il ne faut pas aller telle place parce que la place n'est pas peut-être appropriée pour la femme, ou soit quand vous y allez, allez-y avec maîtrise, allez-y avec prudence, parce que en y allant brusquement, vous risquerez peut-être de connaître peut-être des choses qui ne sont pas normales. Donc, en fait, c'est vraiment ça la limite que moi je peux peut-être trouver en ce qui concerne la misogynie, et la conservation ou être conservateur de valeurs.
Mais vous ne pensez pas que cela soit une entorse à la liberté de la femme? Parce que si vous devez être derrière la femme pour lui dire non, parce que vous êtes une femme, ne faites pas ceci, n'agissez pas comme cela, n'agissez pas comme cela. À côté de ça, pour ne pas dire au lieu de ça, mais à côté de ça, est-ce que vous ne devriez pas plutôt sensibiliser dans les deux sens, de manière à ce que la femme, où qu'elle soit, quoi qu'elle fasse, qu'elle se sente libre et pas en danger?
Effectivement, c'est ce que je fais souvent. Par exemple, lorsque vous voyez une fille entrer peut-être de danser sur TikTok, sur les réseaux sociaux, on se dit c'est quoi le message qu'elle veut en réalité nous faire passer. Et peut-être quand on veut condamner cette attitude-là, on pense qu'on est en train de restreindre la liberté de la femme. Non, ce n'est pas la liberté, mais peut-être on avertit à la femme, attention, en faisant ça, tu peux être victime du viol. Et demain ou après-demain, on ne veut pas entendre des histoires comme ça. C'est juste une manière préventive de le faire. Et aussi, je disais tout à l'heure qu'il y a certaines femmes qui sont peut-être victimes, ou soit elles sont frustrées quelque part, et qui se transforment directement en féministes. Quand elles deviennent féministes, leur réflexe, c'est venir d'abord attaquer les femmes, dénaturer les mariages, parler en mal des hommes, montrer que la femme ne peut pas vivre sans mariage. Souvent, je m'inscris vraiment en faux. Lorsque je m'inscris en faux, on peut nous taxer de tous les noms. Bon, on est dans un monde où, lorsque vous touchez quand même aux intérêts de la femme, on peut vous porter cette casquette. Je sais que c'est vraiment une responsabilité que j'ai prise depuis longtemps, bien que cela m'a coûté beaucoup d'opportunités. Voilà, je n'ai pas pu accéder dans d'autres espaces parce que j'aborde peut-être des sujets que les gens tolèrent si difficilement. Moi, je suis pour l'émancipation de la femme. Moi, je crois à l'émancipation de la femme. La femme doit travailler, la femme doit évoluer parce que le monde ne peut pas vivre, évoluer sans la femme. Mais le mal, c'est que quand on transforme cela en impolitesse, en insolence, qu'on prenne la part entière des responsabilités, par exemple au niveau des familles. Ce n'est pas seulement quand ça vous arrange. Voilà, nous sommes, quand ça ne vous arrange pas, alors vous êtes là en train de vous victimiser.
Je me tourne vers vous, Marie-Joëlle. Vous avez entendu tout ce que M. Ben a dit. C'est vrai qu'ici, on parle de la lutte contre le cyberharcèlement. Et nous savons que parfois, le cyberharcèlement part de certains préjugés qui partent de presque rien. C'est-à-dire d'un point de vue, une opinion qui est soulevée, qui devient finalement partagée par plusieurs personnes et ça devient un préjugé dont on ne sait plus se débarrasser. Après l'avoir écouté, pensez-vous que la femme ait vraiment besoin sur les réseaux, sur les plateformes digitales, que la femme ait besoin de qui que ce soit pour être censurée dans ses moindres faits et gestes, des peurs justement que tout ce qu'elle pourra dénoncer ne soit retourné contre elle-même?
Merci d'abord pour la question. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de préjugés, mais il y a aussi des stéréotypes. Nous devons dire que nous sommes dans une société, disons, africaine et congolaise où nous avons vraiment beaucoup de stéréotypes et des préjugés. Alors, ces stéréotypes et préjugés sont connus selon les communautés ou je peux dire les tribus ou l'environnement où je peux dire. Donc, ça dépend d'un environnement à un autre. Alors, ce sont ces mêmes stéréotypes et préjugés qui deviennent cyberharcèlement, cyberviolence et désinformation lorsque justement on recourt au numérique, internet et aux plateformes numériques justement pour rendre cela viral et réel, pour atteindre un grand nombre de personnes dans l'intention de nuire tout simplement. Parce que nous avons vu dans la désinformation, bien au cours de notre atelier, qu'il y a la désinformation, la malinformation, la mésinformation, justement tout cela, ça pour but de nuire au fait écarter, pas seulement les femmes, mais une catégorie des personnes, disons, un genre, au fait. Voilà. Alors, moi, je pense que la solution à cela, ce doit être l'éducation et aussi vraiment la lutte contre ces stéréotypes et ces préjugés. C'est alors que nous pourrons avoir des outils efficaces contre le cyberharcèlement et la désinformation et même la désinformation genrée. La femme peut avoir peur, c'est normal. La guerre ou bien ces préjugés peuvent apporter des impacts négatifs sur la psychologie, sur l'économie et tout ça. Mais moi, je pense qu'il y a moyen d'être récupéré et il y a moyen de servir de témoignage. Il suffit au fait de décider de ce que nous pouvons faire après cela. La question, c'est d'avoir la bonne information et à travers l'éducation et la formation continue et aussi avec l'appui de plusieurs partenaires, que ce soit le gouvernement, que ce soit les communautés locales, disons les autorités locales et nationales et aussi les institutions comme justement le BCNUDH, la MONUSCO et tout ça qui nous accompagnent et aussi les institutions d'appui à la démocratie, nous pouvons arriver à bâtir une société juste, que ce soit même sur le plan numérique.
Et après avoir assisté à cet atelier, qu'avez-vous retenu qui pourrait vous aider justement dans l'exercice de vos responsabilités, même de toutes les activités que vous exercez?
Bon, ce que je retiens, c'est que justement la désinformation ou la désinformation genrée, ce n'est pas une fatalité tout d'abord. On doit juste comprendre qu'il s'agit d'une mentalité ou d'une intention cachée derrière, parce que les messages, que ce soit derrière ces harcèlements, c'est que, au fait, je ne devais pas faire ce que je suis en train de faire parce que justement, ça ne se fait pas comme ça, mais c'est juste que on recourt aux moyens qui nuisent justement. Alors moi, pour moi, je comprends, mais c'est juste que c'est à moi maintenant de me préparer ou de m'organiser de façon à faire face à cela et à briller davantage.
Et pour vous, Monsieur Ben, qu'est-ce que vous avez retenu qui pourrait vous orienter, on va dire différemment, ou peut-être vous aider dans l'orientation de vos publications, de ce que vous partagez sur les réseaux, au vu de votre influence sur ces plateformes?
Dans cet atelier, j'ai appris un peu la différence entre la mésinformation, désinformation et malinformation. Et aussi, j'ai appris quelques outils qui peuvent m'aider à vérifier les informations des vidéos avant peut-être de les poster. Parce que souvent, j'étais aussi victime. Je vois une photo qui semble être réelle, mais en réalité, elle ne l'est pas. Et à chaque fois, j'étais toujours censuré par des règles Facebook et autres. Mais cette fois-ci, je crois qu'après cette formation, je me sens mieux outillé et maintenant capable de faire face à tout ce qui est vérification d'informations.
Monsieur Ben, Madame Marie-Joëlle, Madame Ornella Mubenga et Monsieur Yves, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions et au plaisir de vous recevoir ici très prochainement pour de nouveaux thèmes tout aussi intéressants. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Merci, merci madame.
Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce magazine 100% jeune de ces jours qui a développé la problématique de la désinformation genrée et du cyberharcèlement en RDC. Merci infiniment à Élise Gavira qui a contribué à la production et à la réalisation de cette émission, mise en onde par Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa et présentée par Grâce Amzati Masanzi sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine.